réflexe de voyage. Voyage autrement, avec noir en voyage. Un monde à découvrir, des histoires à partager. Suivez le fil des reflets pour des horizons dévoilés.
Ben, bonjour Marie, merci de m'accorder cet entretien. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, avec Marie, on s'est rencontrés en Inde pour un séjour au Rajasthan. Je trouve que c'est une jeune fille extraordinaire, ben, qui a pas mal d'expérience de voyage, et je trouvais que son point de vue pourrait être intéressant pour tout le monde. Donc, merci de m'accorder ce petit moment.
Avec grand plaisir.
Ben, c'est une conversation, donc ça va être très fluide. Je voudrais d'abord te demander, ben, justement, qu'est-ce que tu dirais de toi et du voyage?
Moi, ce que je j'aime pas dans les voyages, c'est vraiment de me dire, je vais dans un pays et je consomme. C'est vraiment celle qui consomme le pays en quelque sorte. C'est mal dit, mais je pense que ça exprime bien ce que je
Oui,
ressens.
tout à fait.
Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai appris de mes précédents voyages. C'est peut-être en allant plus lentement qu'on arrive à faire les plus belles rencontres et à vraiment vivre. En fait, vivre pas, on peut pas dire vivre comme les locaux, mais un peu comprendre une petite partie, je sais pas, 5-10% de ce qu'un Indien peut vraiment vivre. C'est sûr que dans ces choix de voyage, il y a aussi un renoncement parce que c'est vrai qu'on va pas faire tous les endroits touristiques, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me correspond.
Bah justement, qu'est-ce que ça représente justement pour toi le voyage? Justement, c'est la rencontre, c'est la découverte de nouvelles cultures, d'après ce que tu nous dis.
C'est la rencontre. C'est la rencontre et la découverte de nouvelles cultures. Pour moi, les deux choses principales que je recherche dans un voyage. Par exemple, on peut imaginer, je pense qu'il y a des personnes, c'est plus le côté historique qu'elles vont rechercher. Là, je pense au côté historique, il y en a sûrement d'autres. Moi, j'avoue, c'est pas ce que je recherche le plus. Oui, je pense, pour comprendre la culture, il faut aussi comprendre une partie de l'histoire, mais c'est pas ce que je préfère. Tu sais.
Oui.
Alors moi, je sais que avant la destination, je cherchais surtout une façon de partir. S'il n'y avait pas eu l'Inde dans les voyages proposés par Rencontre au bout du monde, mais je pense que je serais quand même partie avec eux. Je suis tombée un petit peu par hasard sur Rencontre au bout du monde. C'est vraiment en tapant sur Google voyage Inde éthique et voilà, j'ai vu quelques associations, quelques organismes, quelques voyagistes. Je crois qu'on dit ça comme ça, des
Oui,
voyagistes.
c'est ça.
Et voilà, sur Rencontre au bout du monde, ça m'a parlé. Je les ai appelés parce que je voulais en savoir un peu plus. Et j'avoue, j'avais un peu la flemme de lire tout ce que je trouvais sur leur site. Je me suis dit, c'est plus simple si je les appelle. Et puis voilà, j'ai pu échanger avec quelqu'un de l'équipe qui m'a vraiment présenté ce voyage. J'ai senti que ça correspondait à mes attentes.
Du coup, tu voyages souvent?
Alors, je ne suis pas une grande voyageuse comme toi, Ida. Oui, j'ai quand même, bah, je me rends compte que par rapport aux personnes de mon âge, j'ai quand même fait pas mal de pays. Entre autres, moi, j'ai eu la chance d'habiter au Cambodge pendant 6 mois. Donc, en fait, je suis partie avec des VSI, c'est des volontariats de solidarité internationale. Donc, c'est vraiment un contrat reconnu par l'État. Et avec Fidesco, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ne choisit pas ni son pays, ni sa destination, ni la personne avec laquelle on part. Donc, en fait, on est envoyé là où ils ont besoin, avec la personne où ils pensent que ça peut matcher.
Ouais, c'est
Est-ce que tu...
génial ça. Je trouvais que quand tu me l'avais raconté en Inde, j'ai trouvé ça hyper intéressant et qu'une jeune fille comme toi se lance dans des initiatives comme ça, je trouve ça super. Alors, qu'est-ce qui t'a frappé au Cambodge justement dans ton expérience?
Alors, moi, ce qui m'a frappée, je pense que c'était déjà la première fois où j'expérimentais vraiment le voyage de façon, entre guillemets, douce, où je me disais, mais en fait, c'est en vivant, en allant doucement, qu'on fait les plus belles rencontres et on est le plus ouvert. Et c'est des fois là où on s'y attend le moins qu'on va rencontrer des personnes qui vont vraiment Ouais, qui vont vraiment nous apporter quelque chose. J'étais
Mmh.
allée à Campotte, qui est connue pour le sel. C'est la période où je commençais un petit peu à parler de mieux en mieux Khmer. Et puis voilà, enfin, je suis là avec Anne-France, avec qui j'étais partie, et mon binôme de voyage. Et puis on a commencé à parler avec un homme qui était là aussi avec son scooter. Et on a parlé, parlé, parlé en Khmer. Et c'était super intéressant comme discussion. On s'y attendait pas. Et puis voilà, et c'est vrai que c'est toujours un. Quand on arrive à parler la langue du pays, c'est les rencontres, elles sont toujours différentes. Hein. Moi, j'ai pas eu cette chance en Inde, mais j'imagine que pour toi, si. Alors, j'ai eu la chance quand j'étais avec toi, puisque en Inde, tu étais notre traductrice officielle.
Ok, super. Et du coup, quel est ton meilleur souvenir de voyage? C'est peut-être pas au Cambodge, c'est peut-être aussi dans le désert quand t'es partie. Mais je sais pas, dis-moi, c'est
Alors.
ton meilleur souvenir de voyage.
C'est dur, hein, de trouver un meilleur souvenir. Moi, je sais que l'expérience, en tout cas dans le désert, m'avait beaucoup marquée parce que du coup, je suis partie marcher. C'était assez court, une semaine dans le désert au niveau du Maroc, le Sahara qui était au niveau de la frontière avec l'Algérie. Et donc, j'étais partie avec mon guide et ça a été une expérience. Enfin, je ne m'attendais pas à vivre quelque chose d'aussi fort. C'était mon premier voyage où j'étais vraiment seule, seule, où je ne rejoignais pas une amie, où il n'y avait pas quelqu'un que je rejoignais, hein, même si vraiment, ouais, j'étais seule. Et de marcher dans le désert et d'avoir ce calme, ça a été impressionnant en fait. Ce calme, et après, on faisait donc la nuit, on dormait soit juste le guide et moi au milieu du désert, soit on allait dans les familles, dans les villages, mais. C'était des familles qui vivent de façon totalement nomade. Ils ont juste une tente, le mari a deux femmes, ils ont sept enfants et ils sont là et ils t'accueillent comme un roi. Enfin, c'est dans ce silence. Enfin, c'était une expérience. C'était vraiment une expérience incroyable. Je recommande à tout le monde.
Mais justement, partir seul, ça, pour beaucoup, c'est souvent, il y a un peu de peur, surtout pour les femmes qui voyagent seules, etc. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à partir seule et est-ce que tu as rencontré des difficultés durant ton voyage?
Alors, je pense que ce qui m'a motivée à partir seule, je peux dire, il y a deux raisons. La première, c'est le challenge, parce qu'on se dit, il faut que je l'expérimente. Si je ne l'ai jamais expérimenté, je ne pourrais pas dire ça me convient ou ça ne me convient pas. La deuxième raison, c'est que bah, il n'y a pas toujours des amis qui sont disponibles au même moment, il n'y a pas toujours des amis qui ont envie de faire le même voyage, et des fois, il faut juste se dire, mais en fait, j'ai envie de le faire, je ne peux pas toujours attendre des autres, maintenant j'y vais. Il y a deux types de voyages seuls. Il y a voyager seul là où je savais quand même que j'allais retrouver mon guide à partir de ma deuxième nuit au Maroc. Et les voyages seuls où je me pourrais me dire, je donne un exemple, hein, mais je pars à Prague toute seule 15 jours. Ça, j'aurais plus de mal parce que ça aurait été à moi vraiment de faire toutes mes journées toute seule. Alors que là, je suis seule, mais en fait, je ne suis pas vraiment seule. Comme je suis avec un guide, je sais que je vais rencontrer quelqu'un là-bas. Et ça, ouais, partir par exemple 15 jours. À Berlin ou 15 jours à Prague, oui, c'est des villes par exemple en Europe qui pourraient être plus accessibles et c'est plus facile d'être en autonomie. Mais ça, j'avoue, c'est quelque chose qui me parle moins. C'est parce que j'imagine, c'est peut-être dans ma tête, hein, mais j'imagine que c'est plus difficile de nouer des contacts avec si je vais en Allemagne 15 jours que si je vais au Maroc 15 jours. Je pense que c'est aussi au niveau des cultures. Moi, je sais que c'est ce genre de culture qui m'attire parce que c'est des cultures. Avec vraiment une forme de un esprit l'esprit d'hospitalité qui est très fort et moi c'est quelque chose qui me touche à chaque fois que j'y vais et où je me sens à l'aise quoi. Donc voilà. Et après au niveau des difficultés, ça c'est plus par là des difficultés plus mentales. Sinon au niveau des difficultés peut-être plus matérielles, c'est vrai que partir seul ça demande aussi un minimum d'organisation, surtout si on définit toute seule ces journées. Moi, j'ai eu à faire juste une journée, enfin deux journées au Maroc. Donc, en vrai, c'est ridicule, mais c'est se dire, j'arrive, je suis toute seule dans une ville que je ne connais pas, avec une langue que je ne connais pas, je ne connais pas la culture, je ne connais rien, mais je vais pas rester dans ma chambre d'hôtel. Donc, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est un challenge aussi. Et c'est vrai que c'est, voilà, il faut se dire, OK, je sors. Quand on est dans le pays depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on n'a plus cette peur. Mais quand on arrive dans le pays, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu, surtout des pays comme le Maroc, surtout l'Inde, sentir un peu, Tout d'un coup, on sort de l'avion, on se dit, OK, alors il y a 10 000 personnes qui viennent me proposer un taxi, zut, il faut que je change mon argent. Donc ça, je sais que ça peut être un peu challengeant, d'où l'intérêt de se dire, quand on commence à faire ce genre de voyage, d'avoir bien préparé, d'avoir pris ce temps de préparer et d'avoir, si on peut, hein, des personnes où on se dit, on va les rencontrer sur place, par exemple, où vous
Personnes
dites,
ressources sur place, oui. Par
pas
exemple,
des
des
personnes ressources.
connaissances ou.
Pas des Français nécessairement, enfin moi je dis
Oui.
français parce que je suis française, mais se dire, moi par exemple, le guide que je devais rejoindre du coup à l'autre bout du Maroc, il m'avait donné le contact d'un de ses amis, pour me chercher à l'aéroport. Moi là,
Ouais.
ça me rassurait de me dire juste, ben voilà, il va arriver à l'aéroport et il va me ramener jusqu'à mon hôtel. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours ce moment stressant quand tu arrives dans un autre pays où t'as pas d'argent, enfin t'as l'argent, mais t'as pas l'argent local.
Oui.
T'as pas internet. Donc c'est vraiment l'objectif premier, c'est trouver une carte SIM quand t'es toute seule, trouver et convertir ton changer ton argent. Moi, ça a
Ouais.
toujours été mes deux objectifs. Donc ça, c'est vrai qu'il faut un peu anticiper à ce niveau-là. Et moi, je sais que j'avais un peu paniqué quand j'étais arrivée au Maroc. Ce que j'essaye du coup de retirer de l'argent, impossible. Et après, je me disais, bah après, je suis vraiment dans le désert, faut que je paye le guide en liquide, enfin il faut de l'argent. Ça marche pas, je comprends pas, je me dis, mince et tout, je vais faire comment? Parce que là, je me dis, bah, j'ai une carte, mais en fait, je peux pas retirer de l'argent, enfin, comment faire? Enfin, je suis bloquée. Et en fait, après, je suis rentrée à l'hôtel, je me suis dit, je vais trouver la solution. Et en fait, j'avais juste atteint mon palier d'argent à dépenser, il fallait que je
Ah,
débloque.
d'accord.
C'est tout bête, hein? Non, mais c'est tout bête, mais c'est vrai que sur le coup, ça a fait un peu paniquer, je trouve. Tu te dis, mince, là, j'ai plus assez d'argent, comment je vais faire, en fait? Enfin, comment je fais? Après, il y a toujours des solutions, en fait. Faut se dire qu'il n'y a jamais de problème.
Et tu donnerais quel conseil, astuce comme ça, tu donnerais à des personnes qui veulent se lancer dans le voyage solo et qui hésiteraient peut-être, voilà, des petites astuces ou des petits conseils.
Alors, déjà, je pense que pour se lancer, ça sert à rien de se dire nécessairement je pars un mois. Ça peut faire paniquer. Ça peut être vraiment je pars une semaine. Commencer, voir qu'est-ce qui correspond le mieux. Est-ce que ça peut être juste, ça me rassure de partir en Grèce ou dans un pays qui ressemble un peu, entre guillemets, à la France?
C'est
Ou est-ce qu'on
exactement
se
ce que
dit.
j'ai fait, moi. Je suis partie en Grèce, à Santorin, toute
Mais voilà,
seule,
non,
une
mais ça
semaine.
rassure au moins, ou même partir en université française, ou juste pour expérimenter de ce moment où t'es toute seule sur la route. Après, si voilà, la personne, là, tu te sens de te lancer tout de suite sur du de l'Inde, vas-y. En vrai, l'Inde, c'est quand même un peu extrême. Je pense qu'il vaut mieux commencer par exemple, le Maroc ou Marrakech, c'est quand même assez touristique. Donc voilà, on se sent. C'est différent. Je donnerais ça comme conseil. Bien préparer aussi, si on est comme moi, on est un petit peu stressé, bien préparer quand même à l'avance les choses qu'on veut faire, quitte à sur place à changer d'avis. C'est pas un souci, mais au moins se dire, il y a ça, j'ai vu que c'était cool, ce restaurant, il est cool. Comme ça, si sur place, on panique ou voilà, on se dit, non, mais il y a ce restaurant, je sais qu'il est bien, ou je sais qu'il y a ce truc à faire cet après-midi, il y a cette option. Et après, pourquoi pas, hein, si on rencontre quelqu'un, se laisser guider, ou si on a d'autres options qui s'ouvrent à nous, mais ça permet aussi de s'ouvrir les portes des différents chemins.
Oui.
Je donnerais ça comme conseil.
Oui, se
Sinon,
préparer un
conseil
petit
pratique.
peu avant de partir,
C'est
oui.
ça. Conseil pratique, ça sert à rien de prendre trop d'affaires. De toute façon, vous trouverez rien sur place. J'ai appris de mes erreurs. Moi, je me souviens quand j'étais partie au Cambodge, j'avais deux énormes valises. Enfin, j'avais l'impression que je trouverais jamais de dentifrice là-bas, donc j'avais pris trois dentifrices. Enfin, des trucs comme ça. Enfin, mais voilà, quand on va dans un pays qu'on connaît pas, on se dit, bah, je trouverai pas sur place. Et j'ai bien évolué, hein, depuis le Cambodge, parce que je suis partie en Inde avec quatre t-shirts dans ma valise.
Ah ouais, comment tu l'as eu ce goût du voyage? D'où il te vient?
Alors, moi, j'ai des grands-parents qui sont des grands voyageurs. Enfin, des grands voyageurs. Mes grands-parents, ils ont fait quand même pas mal de voyages assez intenses, sans être non plus extrêmement intenses, hein. Je sais que c'était des voyages qui sont partis en Inde, mais en Inde, ils n'allaient pas dans les fêtes, dans les villages, dans les familles. Enfin,
Ouais.
ils allaient quand même dans les villages et tout. Après, j'étais pas née ou j'étais trop jeune pour qu'ils me racontent tout dans les moindres détails, mais. Je sais qu'ils étaient au Canada et ça, ma mamie, elle est quand même assez fragile, entre guillemets, hein, fragile physiquement. Et je sais qu'ils ont fait des voyages qui étaient assez intenses pour elle. C'était vraiment, ils dormaient dans des tentes, ils faisaient genre, ça, ils gelaient la nuit au Canada. Ensuite, ils ont redescendu tout un fleuve. Ma mamie, elle racontait, j'avais tous les sous-vêtements toujours trempés parce que tout était humide. Je sais qu'ils étaient dans le Sinaï. Ils ont marché dans le désert du Sinaï en Égypte. Voilà, ils ont fait quand même pas mal de voyages, et quand j'étais petite, c'était quelque chose qui je pense, me fascinait un petit peu. Puis je pense que j'ai toujours eu ce goût de la culture différente de la mienne. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Et ouais, ce goût de découvrir de nouvelles choses. Et moi, partir, par exemple, faire ce VSI, ce volontariat de solidarité internationale. En fait, c'était quelque chose que j'avais vraiment au fond de moi depuis ça a commencé, je pense, au moment du lycée. Et puis voilà, l'occasion se présentait pas trop. Et puis voilà, j'avoue, hein, j'avais une petite part de moi, je pense, qui paniquait. Enfin, c'est qui était pas non plus. Je dis pas que j'étais à 100% super sereine, super heureuse. Il y avait une partie de moi qui avait peur. Et je pense qu'il faut aussi se le dire. Enfin, c'est normal d'avoir peur. J'avais vraiment ce désir profond que j'ai écouté, mais dans ma tête, j'avais aussi des petits trucs en mode. Waouh, genre là je vais pas voir ma famille pendant un an parce que ma famille, mes parents, ils peuvent pas se payer un billet pour venir au Cambodge. Puis c'est vrai que j'avoue, hein, une semaine avant de partir, là quand je commence à dire au revoir à toutes mes amies, à dire au revoir à toutes les personnes qui sont autour de moi, c'est ce moment où tu te dis, ok, là c'est réel, c'est vraiment réel. C'est je ne vous revois pas avant un an. J'espère que tout va bien se passer. Et quand je suis arrivée au Cambodge, j'avoue. Les premières nuits, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? C'est méga lent, hein, non, en fait. Là, je suis au milieu de nulle part, toute seule. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai vraiment eu ces sentiments. Et je me disais, mais ça, un an, c'est infini, en fait. Je me disais, un an, c'est infini, qu'est-ce que je vais faire ici? Parce que j'arrivais pas à me projeter, enfin, je savais pas où j'étais, je connaissais rien autour de moi, j'étais vraiment comme si on m'avait jetée dans l'inconnu. Et au final, voilà, après, on se fait un peu nos repères, on se les crée, et puis c'est passé vite. Après, je suis restée un peu moins d'un an, hein, malheureusement, à cause du Covid, j'ai dû rentrer un peu plus tôt. Mais voilà, 7, 8 mois, je voulais pas rentrer, hein. J'étais là, ben, en fait, c'est trop cool, ma vie, elle est là maintenant pour le moment, quoi.
Ouais. Et du coup, justement, pour revenir sur les peurs avant, quel pourcentage dirais-tu des peurs que tu avais avant de partir se sont concrétisées réellement durant ton voyage?
Ce premier voyage, je pense que la plupart de mes peurs, elles ont pas eu lieu parce que c'était des peurs de l'inconnu plus.
Ouais.
Alors que peur d'être malade, la peur de, parce que moi en fait, bah, dès que je suis dans des pays comme ça, je suis malade. Pas malade comme un chien, mais malade en mode,
La
je suis pas
tourista.
bien. Voilà, la touriste, la peur de. Moi je sais que j'aime bien. Enfin, pour moi c'est important de bien dormir. Et quand on part dans des pays comme ça, c'est pas toujours possible, en fonction du voyage, de bien dormir. Et ça, c'est assez, des fois, difficile. Enfin, moi, j'avoue, en Inde, ça a été, je pense, honnêtement, la chose la plus difficile du voyage.
Oui.
Que je dormais pas. J'étais vraiment fatiguée. Fatiguée, mais fatiguée. Donc, c'est vrai que des fois, il y avait des moments où je me disais, OK, genre, il faut de l'énergie. Là, il faut que tu montes cet escalier. Courage, tu vas y arriver. Ça a été
Ah
l'aspect,
ben
il faut.
malgré sa fatigue, ça l'empêchait pas d'aller faire toutes les boutiques, flâner dans la rue, tout ça,
Ça m'a
jusqu'au
permis d'être un peu
dernier jour, hein.
surprise. Jusqu'au dernier jour, bah, profiter à fond, fond. J'aimerais trop
D'ailleurs,
revivre.
en parlant de ça, quelle est ta bucket list? Est-ce que tu as une bucket list, par exemple?
Alors, oui et non, parce que comme je disais, je choisis plus la façon de voyager que la destination. Alors, pour te dire, je n'ai choisi aucune destination pour mes voyages. Sauf l'Inde, j'ai envie de dire. Île Maurice, c'est parce que mon oncle était à l'île Maurice, donc j'avais pas choisi non plus. Écosse, j'avais pas choisi. Égypte, c'était du volontariat que j'avais fait. C'était en fait, je vais dire le thème, c'est pas le bon mot, mais en fait, c'était une rencontre avec des jeunes catholiques coptes.
Oui.
Partie vraiment rencontrer des jeunes catholiques coptes, on était plusieurs, on était 5-6, un groupe de 5-6 Français à être partis. Et en fait, c'était méga intéressant. Alors, je suis partie en Égypte, j'ai pas vu les pyramides,
Ah ouais,
je
c'est
suis
vrai,
partie
tu
en
m'as dit ça, j'ai fait waouh! Pourtant,
Là, j'étais
elles
pas
sont
du
pas
tout au
cachées,
niveau
hein,
du
elles
cœur.
sont vraiment à côté du cœur, quoi. Faut pas aller loin, quoi.
Ouais, c'était pas au Caire. J'étais
Ouais.
à Assup, pour ceux qui connaissent, mais je pense pas, c'est pas du tout touristique. Et j'ai l'archevêché, c'est ça. Tu trouves les mots mieux que moi. Je suis un peu fatiguée, c'est pour ça. On était dans l'archevêché et après on était aussi parti faire un camp avec des jeunes catholiques coptes. Et c'était méga intéressant en fait de découvrir leur culture. Ça a été vraiment très fort. Et voilà, si j'étais partie dans une chambre d'hôtel, visiter les pyramides juste, bon, j'aurais bien aimé voir les pyramides aussi, mais ça n'était pas l'objectif de mon voyage.
Oui.
Et en fait, ça m'a pas manqué. Et ça m'a vraiment de comprendre, maintenant, qu'il y a des jeunes Égyptiens avec qui je suis toujours en contact. Et il y en a un, par exemple, que j'ai vu là, début août, fin juillet, qui était en France. Donc, ça, je trouve ça trop, trop bien. Bah de voir comment d'autres personnes qui ont le même âge que toi dans un autre pays pensent et appréhendent la vie, quoi. Je te disais, je cherche vraiment pas la destination. Après, bien sûr, hein, on a tout... enfin, j'ai des voyages où je me dis si j'ai un moment le choix, voilà, j'irai. Le Mexique, c'est un pays qui m'attire énormément. J'ai une de mes amies qui a habité un moment, qui revient parfois, donc j'aimerais bien y aller avec elle.
Et en fait, qu'est-ce que tu as préféré du voyage de en Inde justement? Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage?
Moi, j'étais, en tout cas, j'ai adoré notre guide. J'ai trouvé qu'il était au top, Baba, comme on l'appelait.
Oui.
Parce qu'on a vraiment eu un guide vraiment à notre écoute, qui parlait très bien français, qui nous a fait vraiment l'honneur, en quelque sorte, de nous inviter à rencontrer sa femme et sa fille, enfin, sa famille, le dernier jour. Enfin, ça, c'était très touchant. Donc, ça, je retiens ça, parce qu'en vrai, le guide, c'est quelque chose pour moi, quelqu'un qui est extrêmement important dans un voyage. C'est celui avec, c'est notre référence sur place. C'est grâce à son prisme qu'on va comprendre le pays. Donc, si le guide, on l'aime pas trop ou on lui fait pas trop confiance, bah, voilà, c'est compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup de guides, comme Baba nous l'expliquait lui-même, qui sont, je peux pas dire corrompus parce que c'est pas vraiment le mot, mais voilà, où toutes les choses qu'ils vont montrer, c'est dans un souci financier pour se dire, bah, derrière, ils vont acheter, derrière, nanani. Et ça, c'est moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, quoi, ce genre de voyage. J'étais vraiment très contente. Bah, ce voyage qui était aussi très intéressant, c'était le juste milieu entre trucs touristiques, parce qu'on a visité tous les châteaux, toutes les
Taj
demeures des rois,
Mahal.
on en a fait plein. Bon, ça, c'était cool. Mais ça a aussi été des journées où on était juste dans les familles, à aller voir les enfants à l'école, à arracher les mauvaises herbes et à danser avec les femmes. Et ça, je trouvais ça bien de voir vraiment ces deux aspects. Enfin, les deux aspects se complètent l'un l'autre. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et après, bon, comme je pense beaucoup de gens qui vont en Inde, hein, je retiens les couleurs de l'Inde. C'est quelque chose de magnifique. Et les odeurs, bonnes comme moins bonnes, hein, mais les odeurs, la nourriture. En fait, bon, la nourriture, moi, j'avais un peu des problèmes avec la nourriture. Ida, tu sais, j'adorais le goût de la nourriture, mais je n'avais pas de goût parce qu'il y avait du piquant partout, partout, partout. Donc, juste 2 secondes avant que le piquant vienne, je sentais les épices. Et après, c'était fini.
Du coup, est-ce que tu aurais un petit conseil pour les futurs voyageurs ici en Inde?
J'avais entendu des gens qui me disaient, oh, je pourrais pas aller en Inde, c'est trop dur, c'est trop pauvre. Et en fait, en parlant aux gens aussi autour de moi en rentrant, ouais, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vraiment, je pense que c'est pas pour eux actuellement, pour le moment, ils sont pas prêts ou peut-être qu'ils le seront jamais. Et c'est pas une question de meilleur ou moins bon que moi, enfin,
Non,
vraiment peu
c'est
importe.
juste, ouais.
Il y a des
Il faut
sensibilités, et
s'écouter.
pourtant, moi, c'est ça. Il y a des sensibilités qu'il faut. Moi, je pense que je suis quelqu'un de. Enfin, je sais que je suis quelqu'un de très sensible, mais ça, c'est quelque chose où ça va. Je pense que comme j'ai aussi pas mal voyagé, je connais la pauvreté, je connais. Je me souviens la première fois, ça, j'avais eu un peu aussi un choc en mode waouh, c'est très pauvre. Mais là, je me suis habituée, même si on ne s'habitue pas vraiment à la pauvreté. Mais je savais un peu à quoi m'attendre, même si après, voilà, tu le sais, hein, quand tu vois des enfants qui tournent la manche, qui sont avec des cicatrices étranges de trafic d'organes, ou tu sais pas vraiment, enfin, ça, c'est pas facile non plus. Enfin, C'est pas ça qui va, moi, qui va me gâcher à mon voyage, mais c'est juste des moments qui sont pas évidents à vivre. Et je sais qu'il y a des personnes qui pourraient ne pas s'en, entre guillemets, s'en remettre, quoi, ça pourrait être vraiment un poids trop lourd à porter pour elles pendant un voyage. Après, ça, c'est un conseil, je pense, qui vaut pour tous les voyages.
C'est ça.
C'est prendre le temps.
Ouais.
Prendre le temps. Vraiment, ce moment où on est là, c'est vraiment presque de la
C'est du
pleine conscience et de.
mindfulness.
Je suis vraiment là, j'ai plus
Obligé.
rien à penser. Parce que
Ouais.
même des fois, on est là en France, ça nous est tous déjà arrivé. On a une soirée où on est dans un restaurant, où on est là, mais au final, notre tête, elle n'est pas là. On est déjà en train de se dire après. Enfin, moi, je sais que je suis énormément comme ça, en train d'anticiper, de dire après, il faut que je fasse ça. Ben là, j'étais là. Mais de toute façon, j'ai rien à anticiper. Le guide, il va me dire lève-toi quand on doit y aller, prends ton sac et voilà. Et là, je suis juste là et j'attends. J'attends. Donc,
Super, être dans le moment présent, prendre le temps, quoi.
c'est
Et
ça.
du coup, alors, une des choses extraordinaires, bah, à propos de Marie-là, tu vois, je m'emmêle les pinceaux, je mets de l'anglais, de l'hindi, partout. Elle partage une de mes passions, c'est pour l'écriture et la lecture, en particulier, elle travaille pour une maison d'édition. Donc, alors, pourrais-tu partager avec notre audience, bah, quelques bouquins que tu leur recommanderais, par exemple?
Alors moi, je recommande les Mélissa d'Acosta.
D'accord.
Mélissa d'Acosta, elle a vraiment, elle est super connue si vous lisez un peu, si vous aimez ce genre de, enfin, elle est connue. C'est comme Agnès Le Digue ou c'est des livres qui marchent très bien parce que justement c'est beau. En fait, c'est vraiment des belles histoires qui sont racontées. C'est toujours une Ça part toujours, sauf la doublure qui est vraiment un de ces romans très différents des autres, mais sinon tous les autres, il y a un événement qui se produit dans la vie, une perte d'un être aimé, une séparation, quelque chose de dur, un accident, un handicap. Donc tu as toujours ce personnage, souvent c'était que des femmes dans ce que j'ai lu, cette femme qui se retrouve confrontée face à ça, et ensuite l'histoire c'est comment en fait elle retrouve l'énergie, le goût à la vie. Et c'est pas quelque chose de difficile. Enfin, c'est pas un roman sombre, deep, où c'est vraiment des thématiques compliquées. Oui, c'est des thématiques compliquées, mais c'est toujours abordé de façon belle, en fait. Il y a quelque chose de beau dans ces ouvrages. Voilà, je recommande, si vous avez besoin d'une petite lecture tranquille, je recommande les Mélissa d'Acosta.
Et un livre qui a changé ta vie, on va dire.
Alors, là, je me suis un peu mise plus récemment au livre de développement personnel.
Oui.
Et là, alors, bon, c'était une thématique qui, moi, que j'avais déjà travaillé un peu avant, les relations mère-fille. À
Oui.
partir du principe que les relations mère-fille ne sont jamais parfaites. Parce que je pensais vraiment pas que je serais en train de te parler de ça maintenant, Ida, mais les relations mère-fille ne sont jamais parfaites parce que toute femme, en fait, on porte, tout homme, hein, toute femme, et là on parle des femmes, on porte en nous des choses, pas nécessairement des traumatismes, mais des choses plus compliquées qu'on va donner à notre enfant, et c'est normal. Et donc, en fait, ce livre, il part de ce principe, et il montre à quel point, en fait, on peut se libérer, on peut être une mère pour soi-même et se libérer un peu de toutes les choses plus ou moins négatives qu'a pu nous transmettre notre mère. Mais ce livre, jamais il ne culpabilise les femmes, par contre. C'est bien, faut bien faire attention à ça. C'est pas un livre qui va dire les femmes, vous transmettez des traumatismes de génération en génération, non. Mais ça montre aussi que le patriarcat, déjà, il pèse pas mal sur les femmes, et c'est comme ça que naissent les traumatismes. Et alors, je l'ai dans ma bibliothèque qui est en face de moi.
Oui.
Ouf! Je vais le chème.
Tu peux nous montrer ta
Je vais.
bibliothèque? Je suis curieuse.
Non.
Waouh!
Voilà. Et...
Très
Je peux
mignonne.
mettre des petites lumières, mais je sais pas si ça va se voir là.
Ouais.
Voilà, les petites lumières.
Ah,
Alors,
c'est mignon tout plein.
c'est Être une mère pour soi-même de Bethany Webster.
Ok, super. Super. Alors, pour terminer, je voulais savoir si, alors, une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que
Non,
je te pose et que tu aies ta réponse, justement.
Non, c'est pas une question, mais justement, là, je suis en train de me dire, parce que quand tu m'as parlé, tu as commencé à dire oui, que je travaille dans une maison d'édition.
Oui.
Moi, c'est un truc que j'ai vraiment appris de mes voyages. C'est noter ce que vous avez vécu tous les jours. Parce que vous vous en souviendrez plus après. Et vous serez trop content de pouvoir relire. Je suis pas du tout quelqu'un qui écrit dans son journal intime, normalement, chaque jour chez moi. J'avoue, j'écris des fois dans un carnet quand ça me fait du bien, mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Quand je suis en voyage, j'essaie d'écrire au minimum tous les 2 jours quand c'est possible. Parce qu'en fait, vraiment, on pense qu'on va se souvenir, hein. Mais en fait, on se souvient pas de nos émotions. Et après, ça reste assez flou. Enfin, il y a des parties qu'on oublie. Et aussi, ça permet de se rappeler des souvenirs. Et la deuxième raison, c'est si vous aimez faire des albums photos comme moi, si vous aimez après donner des conseils aussi.
Merci d'avoir voyagé avec Noirun Voyage, un voyage à votre image, des souvenirs en bagage. À très vite pour une nouvelle.